Vous écoutez, on lit pour vous.
Crise du logement à l'UL, l'itinérance étudiante. Un texte de Florence Bordelot-Gagné et Antoine Morin-Racine. Paru le 21 avril 2024 dans Impact Campus. Hausse de loyer illégal, quantité famélique de logements disponibles, propriétaires abusifs. Partout à travers le Québec, les étudiants et étudiantes sont parmi les victimes les plus vulnérables de la crise du logement. Impact Campus dresse un portrait en 4 articles de comment elle se vit à l'Université Laval. Dans ce dossier, nous avons parlé de résidence étudiante, du marché locatif privé et d'un organisme à but non lucratif qui a à cœur les enjeux de logement étudiant. Cependant, toutes ces options ne sont pas suffisantes et certains et certaines étudiants et étudiantes se retrouvent en situation d'itinérance. Quand les sofas du campus deviennent l'ultime refuge. Les enjeux d'itinérance sur le campus peuvent être, en grande partie, regroupés sous le nom d'itinérance cachée. On parle en effet d'étudiants et étudiantes qui doivent se résoudre à vivre sur les divans d'amis, dans leur auto ou même sur les sofas des pavillons universitaires. Car les bâtiments sont débarrés 24 heures sur 7, ils sont chauffés et ils sont sécuritaires. Quelques étudiants et étudiantes, incapables de trouver un logement, s'y réfugient donc en dernier recours. L'administration de l'université est au courant de la situation. En effet, elle a instauré, cet automne, un comité sur l'itinérance étudiante afin d'étudier la question. Il en ressort que, depuis 2022, environ 20 personnes sont connues par le service de sécurité et de prévention, SSP, de l'Université Laval. On parle principalement de personnes autochtones qui éprouvent des difficultés à trouver les ressources nécessaires à leur arrivée sur le campus. Bien que le SSP se soit d'abord montré réceptif à dialoguer avec Impact Campus à propos de cet enjeu, les relations de presse de l'Université Laval ont rapidement pris le relais. Le porte-parole s'est limité à nous fournir cette réponse par courriel. À l'initiative de la table de concertation en santé durable, un comité de réflexion consacre, depuis quelques semaines déjà, ses travaux à la question de l'itinérance sur le campus. Sans en connaître précisément l'ampleur et avec peu de cas recensés, ce comité vise à comprendre le phénomène, identifier les filets qui peuvent être mis en place pour l'éviter ou le gérer adéquatement et accompagner les personnes touchées. L'Université Laval se soucie de la santé et du bien-être de sa communauté. En ce sens, les efforts nécessaires sont déployés pour offrir une expérience enrichissante à toute la communauté étudiante. Que ce soit de l'offre du logement sur le campus, le maintien d'un milieu d'études et de travail sain et sécuritaire, la variété et la qualité des programmes d'études, des offres de soutien financier et psychosociaux, ou les activités variées disponibles, l'Université Laval veille à réunir les conditions gagnantes pour que les étudiants et étudiantes mènent à bien leur projet d'études. Malgré sa connaissance du problème et plusieurs projets d'habitation dont la construction est prévue dans les prochaines années, le comité en question ne s'est réuni qu'une seule fois depuis l'automne dernier. Mais combien un étudiant ou une étudiante doit-il donc gagner par année pour se loger à Québec? Considérant qu'il faut allouer un maximum de 35 % de son revenu pour son loyer, 25 % étant le seuil normal, un étudiant ou une étudiante de l'UL travaillant à 16 $ l'heure doit travailler 18 heures par semaine pour les résidences universitaires, ou 27 heures par semaine pour avoir un studio à l'ardoise. Il faut également prendre en considération la possibilité de travailler l'été pour avoir de l'argent, ainsi que les montants octroyés par les prêts et bourses. Baissons donc approximativement à 12 heures pour les résidences et 20 heures pour les studios de l'utile. Malgré les déboires actuels des étudiants pour se loger, Nicole Dionne est d'avis que la situation n'est pas sans issue, bien qu'elle nécessite la mobilisation des étudiants. Il ne faut pas sous-estimer la force du nombre. Les étudiants nous l'ont démontré en 2012. Si j'avais quelque chose à vous dire, c'est « informez-vous sur vos droits, ne vous laissez pas avoir et mobilisez-vous pour votre droit au logement. Vous avez une grande force et un grand pouvoir. » Dans tous les cas, si des projets locatifs spécialement conçus pour les étudiants sont en cours de route, la situation actuelle reste urgente et les solutions à court terme demeurent rares, voire inexistantes. C'était « Crise du logement à l'UL, l'itinérance étudiante ». Un texte de Florence Bordelot-Gagné et Antoine Morin-Racine, paru le 21 avril 2024 dans Impact Campus. Les refuges ne sont pas des logements, martèlent des personnes ayant vécu l'itinérance. Un texte de Mélinda Trochu, paru le 7 mai 2024 sur radiocanada.ca. Un rapport du Housing Justice Project de l'Université de Victoria, financé par la Vancouver Foundation, compare les expériences d'itinérance à Victoria avec les normes en matière de droits de la personne. Il propose 8 recommandations. Bruce Livingstone, porte-parole du projet qui a lui-même vécu l'itinérance, explique qu'il n'y a pas assez de logements pour les personnes à revenus très faibles dans le Grand Victoria, en particulier des logements sociaux largement subventionnés. Il y a une allocation logement de 500 $ pour les personnes handicapées ou qui bénéficient d'une aide aux revenus de base. Et il n'y a pas d'appartement à 500 $ à Victoria. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'une urgence sociale. Une citation de Bruce Livingstone, porte-parole Housing Justice Project. Selon lui, il faut accélérer les constructions et rattraper le temps perdu, comme il manque maintenant 30 ans de logements dans nos villes. Nous luttons pour un logement pour tous et pour que le logement soit considéré comme un droit humain. Le chemin pour y parvenir est assez simple. Il faut des logements que les gens puissent payer. Dans le rapport, explique Bruce Livingstone, les membres ont constaté de nombreuses violations inquiétantes en matière de droits de la personne, notamment le manque d'accessibilité financière, les expulsions rendant des personnes sans abri, l'absence de propreté et l'insuffisance de sécurité dans le Grand Victoria. La lueur d'espoir consisterait à construire de nombreux logements sociaux subventionnés et très abordables. Parmi les 8 recommandations faites, les membres disent qu'il faut arrêter les longs séjours dans des refuges en transférant les personnes dans des logements permanents dans un délai de 30 jours. Ils demandent également que des services de base, tels que l'eau courante, l'électricité et des toilettes, soient fournis aux personnes vivant dans la rue. Une cible très ambitieuse. Des membres du Housing Justice Project ont rencontré le ministre du Logement, Ravi Kalon, avant leur rassemblement devant l'Assemblée législative mardi midi. Selon le ministre, il est toujours important de pouvoir entendre des personnes qui ont vécu l'itinérance et leurs propositions de solutions. Dans le rapport, une cible de 2000 nouveaux logements fortement subventionnés par an pendant une décennie est avancée pour réduire la crise du logement pour les personnes les plus précaires. Ravi Kalon juge cette cible très ambitieuse et assure que 3000 logements abordables ont déjà été construits à Victoria. Il précise que les bâtiments construits grâce au Community Housing Fund visent à héberger des personnes ayant différents paliers de revenus et que 30 % des appartements sont à des prix à des niveaux équivalents de l'aide aux revenus. Alors que les manifestants ont scandé à plusieurs reprises « les refuges ne sont pas des logements », Ravi Kalon considère qu'ils sont néanmoins un bon endroit pour faire du triage, pour pouvoir identifier les besoins individuels des personnes et ensuite les placer dans un logement. Le ministre du Logement explique que la Colombie-Britannique continue de faire valoir auprès du fédéral qu'elle finance le logement à un taux disproportionné plus élevé que celui de toute autre province, et qu'elle demande au fédéral d'égaler ses investissements lorsqu'il s'agit de logements pour des Autochtones. Les Autochtones touchés de manière disproportionnée. Sherry Jacobs, une des membres du projet, a partagé son expérience en tant que femme Soto-Ojibwe Cree et survivante de la rafle des années 60. Beaucoup de mes problèmes de santé mentale venaient d'une maladie spirituelle due à la séparation de ma culture, de mon peuple et de ma langue, explique l'ancienne travailleuse d'approche. Elle se remémore avoir eu peur de mourir à Nanaimo, une nuit glaciale où il s'était mis à neiger. La combinaison du froid et de ma détresse mentale a été dévastatrice. Cette nuit-là, dit Sherry Jacobs, elle a été arrêtée par une policière méprisante. Sherry Jacobs explique faire désormais partie du Housing Justice Project pour enseigner aux gens comment le colonialisme provoque l'itinérance. Je travaillais, donc je ne pensais pas que je finirais un jour dans la rue, se souvient Sherry Jacobs. Désormais, elle a un logement et aimerait que les gens comprennent que les refuges d'urgence ne protègent pas les personnes des dangers de l'itinérance. Il faut, dit-elle, des logements pour tous. Et maintenant? C'était « Les refuges ne sont pas des logements », martèle des personnes ayant vécu l'itinérance. Un texte de Nadia Gaudreau, paru le 29 mai 2024 sur radiocanada.ca. Itinérance, une crise de santé publique, vue par un urgentologue. Un texte de Nadia Gaudreau et Pierre-Philippe Leblanc, paru le 29 mai 2024 sur radiocanada.ca. Le travail de l'urgentologue Dany Godin, du Centre hospitalier universitaire CHU, Dr Georges L. Dumont, à Moncton, est marqué par la présence quotidienne de personnes en situation d'itinérance ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Il n'hésite pas à parler d'une crise de santé publique. On est rendu à un point tournant où, si on n'agit pas, on va se retrouver avec un problème qui va continuer de s'accélérer, observe le médecin. Selon un sondage auprès de la population itinérante du Human Development Council, nouvelle fenêtre, 58 % des répondants avaient mentionné avoir visité un service d'urgence au Nouveau-Brunswick au cours de la dernière année, et le quart a été hospitalisé pendant cette période. La toxicomanie mène des sans-abri aux urgences. La consommation de drogue est le principal facteur qui mène des sans-abri à se présenter au service des urgences du CHU Dumont, selon le docteur Danny Godin. C'est sûr qu'on a eu, dans les dernières années, une augmentation du taux d'itinérance dans la région de Moncton. Puis, souvent, ça va de soi qu'il y a une augmentation de la toxicomanie qui vient apporter son lot de problèmes, surtout du côté psychiatrique à l'urgence. C'est ça qu'on voit le plus, a affirmé le Dr Godin au cours d'une entrevue accordée à l'émission Le Téléjournal Acadie. Le service des urgences accueille aussi des gens qui souffrent de problèmes de santé directement liés au fait de vivre dans la rue, par exemple des engelures ou la déshydratation. Les itinérants qu'on voyait avant, c'était des gens qui n'avaient pas de loyer. À travers ça, on voyait certaines personnes qui avaient des conditions psychiatriques, qui avaient de la difficulté à s'organiser, souligne le Dr Godin. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'une grande majorité, on semble voir que ce sont des gens qui ont des problèmes de toxicomanie pure. Un problème très complexe. Il existe des traitements médicaux dans les cas de consommation abusive de narcotiques, mais dans le cas de drogues comme la méthamphétamine en cristaux, c'est vraiment l'abstinence qui est le traitement, explique Danny Godin. La consommation de drogue peut aussi mener des gens à une psychose, ce qui nécessite des traitements psychiatriques. Puis, souvent, il y a une majorité de ces gens-là qui vont partir contre l'avis médical avant de terminer leur traitement. Puis, ils retombent dans ce cercle vicieux. Des fois, on revoit les mêmes. Des fois, on ne les revoit pas. C'est vraiment un problème très complexe, dit le Dr Godin. Pour plus de services communautaires. Le Dr Godin juge que les organismes communautaires font du bon travail, mais que leurs moyens sont limités. Améliorer les services communautaires pour accompagner dans l'abstinence des personnes qui souhaitent surmonter leur toxicomanie pourrait être une partie de la solution, selon l'urgentologue. Ça, je pense que c'est le plus important, mais ça prend un milieu de support. Souvent, ces gens-là, leur groupe, ce sont tous des gens qui consomment. Donc, il faut quasiment les sortir de ce milieu-là pour qu'ils apprennent à vivre sans voir de consommation autour d'eux autres, explique Danny Godin. C'est gros comme système, je pense, à mettre en place. Puis, je pense que c'est tellement venu rapidement qu'on n'a pas eu la chance de mettre tous ces services-là en place, ajoute-t-il. C'était Itinérance, une crise de santé publique vue par un urgentologue. Un texte de Nadia Gaudreau et Pierre-Philippe Leblanc, paru le 29 mai 2024 sur radiocanada.ca. Une lueur d'espoir dans la lutte contre l'itinérance. Un texte par À vous la parole, paru le 7 mai 2024 dans Le Droit. Depuis 2020, avec l'arrivée de la pandémie, les pays occidentaux ont vu une explosion des personnes en situation d'itinérance visible. Au Québec, c'est la région de l'Outaouais qui a connu la plus grande hausse. En 2022, 706 personnes ont été recensées, une augmentation de 268% par rapport à 2018. Parallèlement, on remarque un essoufflement des intervenants sur le terrain, mais aussi une prise de conscience sociale citoyenne. Pour répondre à la crise, il est nécessaire de mettre en place un éventail de solutions. L'entreprise gatinoise DevCore a proposé en décembre dernier d'offrir des tentes hivernales chauffées à une cinquantaine de personnes en situation d'itinérance, le tout dans un campement supervisé où les participants se sont engagés à respecter un code de vie. En mars, Centraide Outaouais a interviewé la moitié de ces campeurs afin de brosser un portrait de l'impact social qu'a eu le projet sur eux. Cette démarche s'inscrit dans notre mission, qui est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le rapport sera dévoilé à la fin du mois de mai, mais nous pouvons déjà conclure que le projet a été un succès et qu'une phase 2 est souhaitable. Dans cette perspective, DevCorps a déposé à la ville de Gatineau et présenté à une série de partenaires, dont Centraide Outaouais, un projet de village de conteneurs transformé en mini-maison sur le site Gertin. Je trouve important de donner mon appui à ce projet parce qu'il répond à un réel besoin. Son approche s'inscrit aussi dans les valeurs de Centraide Outaouais. Le respect, la collaboration, la dignité et la rigueur. Il s'agit bel et bien d'un projet de réinsertion sociale et de sortie de l'itinérance. Il donnera aux locataires un espace sécuritaire et l'encadrement nécessaire pour amorcer un retour en logement. En fait, ces mini-maisons constituent en soi un type de logement alternatif. Ainsi, c'est aussi de la dignité qui sera redonnée à des personnes qui en ont urgemment besoin. Les services psychosociaux offerts sur place, ainsi que le jardin communautaire et la serre, en feront un endroit propice à la réussite de la réinsertion sociale. Il s'agit d'un projet novateur, sans compter la rapidité avec laquelle il pourra être mis sur pied, ce qui est un atout majeur. Il est clair que ce projet aura un impact positif pour une grande partie des personnes en situation d'itinérance à Gatineau. Il sera donc nécessaire que les autorités prévoient des alternatives pour les personnes qui ne seront pas prêtes à entamer une démarche de retour en logement. Il doit y avoir une série de propositions adaptées aux différents besoins et capacités des personnes en situation d'itinérance. Et justement, dans cette série de propositions adaptées nécessaires, le village proposé par DevCorps est une lueur d'espoir attendue depuis longtemps. C'était une lueur d'espoir dans la lutte contre l'itinérance. Un texte par À vous la parole, paru le 7 mai 2024, dans Le Droit. Itinérance. Centraide Outaouais a mesuré l'impact social du campement. Un texte d'Étienne Lagueux-Barthe, paru le 29 mai 2024 sur radiocanada.ca. Une enquête menée par Centraide Outaouais conclut que le campement de 48 tentes chauffées, déployé cet hiver par DevCorps au centre Robert Gertin, a eu des effets très positifs sur les personnes y vivant. Les répondants ont souligné les impacts positifs d'avoir un toit sur leur tête, un endroit où se réchauffer en hiver et un plus grand sentiment de communauté entre les campeurs et les intervenants. Un autre élément de réponse qui a surpris Centraide Outaouais et son directeur général, Cédric Tessier, par sa prévalence, est le sentiment de sécurité généré par le campement. Selon l'organisme, toutes les personnes interviewées ont nommé d'entrée de jeu les bénéfices de vivre dans un endroit sécuritaire et de ne pas être constamment en état d'alerte. La proximité des intervenants a aussi permis de diminuer l'anxiété et le stress des personnes vivant sur le campement. Conseillère en impact social, Marilyn Caouette a mené 25 entrevues en mars avec les campeurs. Bien que DevCorp ait donné aux équipes de Centraide Outaouais l'accès au campement, l'entreprise n'a pas participé à l'enquête elle-même. Tout de même des irritants pour les campeurs. En plus de l'absence de douche, les campeurs ont soulevé d'autres problèmes liés à la forme actuelle du projet. L'un d'eux, Carole Beauchamp, disait être souvent réveillé par les inspections menées en journée par les intervenants, des inspections pour s'assurer que tu ne fais pas d'overdose. M. Beauchamp dit soutenir l'initiative, mais aimerait voir des changements dans la gestion et la fréquence des interventions. Un autre campeur, Pierre Lafrenière, est sceptique de la sincérité des organisations qui disent vouloir venir en aide aux personnes en situation d'itinérance. La solution, c'est de créer des logements sociaux subventionnés. Il y avait une grosse enseigne sur le boulevard, mais elle n'est plus là. Où sont ces appartements-là? On les attend encore, ajoute-t-il. Bilan régional désastreux, besoins variés. La région connaît la plus grande hausse en itinérance depuis 2018 au Québec, soit 268% selon Centraide Outaouais. Cédric Tessier souhaite que la phase 2 puisse combler certaines lacunes du projet et facilite l'accès aux services sociaux des personnes vivant sur le campement. De son côté, le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais, Yves Séguin, déplore qu'à l'automne, au moment de sélectionner qui pourrait vivre au campement, les gens plus désorganisés ou moins mobilisés pour changer n'étaient pas choisis. M. Séguin affirme que les personnes rejetées par ces services sont plus à risque de faire des surdoses, puisqu'elles se retrouvent bien souvent isolées. L'entreprise DevCorp tiendra un point de presse jeudi matin pour annoncer la suite du projet. C'était Itinérance. Centraide Outaouais a mesuré l'impact social du campement. Un texte d'Étienne Lagueux-Barthe, paru le 29 mai 2024 sur radiocanada.ca.